les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
Dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous tournons nos yeux vers l'avenir. Le secteur de la construction avance dans la transformation digitale. C'est pourquoi on vous parle de construction 4.0 qui permet de réinventer tous ces métiers. Il s'agit de la mise en œuvre industrielle de nouveaux systèmes construction, l'utilisation du numérique, en particulier sur les chantiers, dans les ouvrages. Chaque mois, nous allons donc parler de BIM, de Lean, de 3D. Enfin, vous allez découvrir tout ça. Le thème ce mois-ci, BIM et hors site. Un duo gagnant. On va voir ça à travers l'illustration d'un exemple concret avec le projet du village des athlètes des JO 2024 de Lille-Saint-Denis. Pour en parler en plateau, Ludovic Cantier, bonjour.
Bonjour.
Qui est donc directeur général adjoint de Pichet, du groupe Pichet. Alors, typiquement, c'est un bureau d'études, ça. Ecotech ingénieriste du groupe Pichet. Quelques mots pour vous présenter, parce que je voudrais juste comprendre exactement ce que vous êtes.
Alors, on est la maîtrise d'œuvre du groupe Pichet, en fait.
Voilà, c'est ça.
Le groupe Pichet, promoteur immobilier, donc dans le top 10 national, promoteur national. Et donc, on reste toute la maîtrise d'œuvre du groupe Pichet, en fait, donc Ecotech Ingénierie.
Ecotech Ingénierie. Donc, vous allez intervenir et nous expliquer concrètement ce que vous mettez en place. Vous avez travaillé, évidemment, avec un architecte, Eric Giudice, qui est avec nous.
Bonjour,
donc, voilà, fondateur du cabinet EGA, c'est ça. Alors, vous avez conçu l'un des bâtiments dont on va parler. Quelques mots pour vous présenter.
Oui, donc EGA, Eric Giudice Architecture, on est une agence franco-suédoise. Donc implanté à Paris et en Suède. Et on travaille notamment donc avec le groupe Pichet-Legendre sur le village olympique sur l'île Saint-Denis. Nous sommes coordinateurs d'un secteur qui s'appelle le PE et nous réalisons deux des bâtiments, dont le bâtiment sur lequel on fera un zoom aujourd'hui.
Exactement.
Dans le cadre de cette...
voilà. On va en parler concrètement. Et puis, troisième intervenant, Pascal Chazal, bonjour.
Bonjour.
CEO de Patch Conseil, vous avez accompagné, vous intervenez en tant qu'AMO donc dans cette aventure. Quelques mots aussi pour vous présenter.
Oui, donc Pascal Chazal. Donc moi, je suis dans le monde de la construction bois depuis une quarantaine d'années. J'ai d'abord fondé et développé la société Haussabois pendant 30 ans, que j'ai cédé en 2012. Et en fait, depuis 2012, j'ai fondé Patch Conseil parce que Il me semblait qu'il y avait un manque entre finalement le monde du bâtiment, de l'immobilier, de la construction, et puis le monde de l'industrie. Et donc Patch Conseil, c'est finalement un cabinet de conseil qui accompagne les maîtres d'ouvrage vers la construction hors site, mais qui accompagne aussi les industriels. En fait, pour réussir l'industrialisation de la construction, on s'est dit qu'il fallait réussir à rejoindre les deux bouts, ce sont deux mondes qui ne se comprennent pas forcément. Et donc, c'est notre rôle d'accompagner tout ça.
Alors, on va en parler évidemment concrètement. Peut-être globalement, parler quand même de la construction hors-site. Parce que bon, là, on va parler de BIM et de hors-site. Elle se développe quand même assez rapidement. Là, on a l'impression qu'au cours des dernières années, là, des deux dernières années, ça a été assez vite. Peut-être aussi que la crise sanitaire qu'on traverse accentue le phénomène.
Oui, alors c'est vrai qu'en France, on n'avait pas trop vu le phénomène qui était déjà arrivé dans de nombreux pays sous le terme de off-site building. Donc, nous l'avons amené en France il y a 4 ans maintenant avec le magazine Hors-Site. Et c'est vrai que ça s'est accéléré très, très vite. C'est pas par hasard. C'est que effectivement aujourd'hui, d'abord, on voit tous les difficultés de la construction, je dirais, classique sur le chantier, qui sont liées à la complexité des bâtiments, qui sont liées qui elles-mêmes sont liées à toutes les normes qu'on doit respecter aujourd'hui. On voit bien l'accélération, encore une fois, avec la stratégie bas carbone. Mais c'est aussi la disparition de la main-d'œuvre qualifiée qui est en train d'arriver très, très fortement. Et j'écoutais tout à l'heure le président de la CAPEB qui disait qu'on manquait d'apprentis. Et donc, les jeunes ne sont pas assez attirés par le monde du bâtiment. Et donc, quelque part, l'idée de transférer un certain nombre de tâches du chantier vers l'atelier ou vers l'usine, effectivement, c'est en train de se développer à vitesse grand V dans le monde entier. Et puis, c'est en train d'arriver effectivement en force en France, pour tout un tas de très bonnes raisons.
De très bonnes raisons. Alors, on va le voir. Et puis là, on allie aussi avec le BIM, hein, le numérique. Donc, si on parle de jeunes générations, ça peut évidemment que les attirer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, de ce projet qu'on illustre ici aussi pour parler de BIM et de hors-site. Vous allez nous en dire donc un petit peu plus, Ludovic Pichet, sur ce... Alors déjà, globalement, hein, sur le projet, après, on arrivera spécifiquement sur le bâtiment qui nous concerne, sur l'île Saint-Denis, donc ce projet pour les Jeux Olympiques.
Alors du coup, c'est un projet sur lequel nous, on a commencé à concourir en mars 2019. Mmh. Donc ça fait partie du village olympique, hein, mais nous, on est sur le secteur 4 donc de l'île Saint-Denis. Et donc du coup, on a eu 9 mois de concours. Mmh. Et en décembre 2019, on a eu la chance d'être lauréat. Et donc du coup, avec une équipe pluridisciplinaire, hein, parce que on fait partie du village olympique. Donc du coup, on a des contraintes par rapport à Solideo et Paris 24. Et donc on a plusieurs architectes, puisqu'on a 11 architectes avec nous. Mm-hmm. On a séparé le village olympique en 3 secteurs. Donc comme mm-hmm. disait Eric est le coordonnateur de l'île OPE, sur mm-hmm. lequel il y a futurs hôtels, futures résidences étudiantes qu'on va parler après, un musée. Mm-hmm. Et ensuite, on a deux autres secteurs, l'île OPA, qui est l'îlot qui est géré et coordonné par chez Tetalix, mm-hmm. et l'île OPB, qui est coordonné par PPX. Et donc, c'est l'équivalent de 22 bâtiments.
Oui, quand même, 22 bâtiments. Et il y en a 12 qui sont hors-site, c'est ça?
Et, alors, non, 12 non. en bois.
En, alors, 12 en bois, c'est pas du hors-site, voilà, faut pas...
C'est ce qu'on va expliquer après avec Pascal, ouais. c'est du hors-site, hein, parce oui, que la sûr, fabrication ouais. en usine, donc 12 bâtiments qu'on va fabriquer en usine. Mm-hmm. Donc c'est un travail qu'on a réalisé depuis début de 2019, hein, on va l'expliquer mm-hmm. après, mais c'est toute une anticipation.
Bien sûr, oui.
Et donc pourquoi est-ce qu'on est parti sur le sujet? C'est qu'on a un planning... assez tendu, parce que Paris 2024, ça bougera pas.
Et donc, c'est sûr.
Il va falloir livrer les bâtiments en décembre 2023.
Ouais, donc là, il faut
donc,
être très précis.
Ça a été 2 ans de conception, alors mm-hmm. 9 mois de concours, plus 1 an et demi de conception. Mm-hmm. Et on a acheté le terrain il y a 2 jours, donc maintenant, il faut démarrer.
Ah, il y a 2 jours, oui. Donc c'est vraiment tout récent, c'est tout frais en même temps, la
Exactement.
Présentation. Donc vous l'avez expliqué, et on fera réagir aussi Pascal Chazal sur cette question-là. Voilà, il y a eu de l'anticipation dans tout ça, parce que ça, c'est la particularité hein, du hors-site. Et bien en plus, si on y associe du BIM, évidemment, Ça ne peut qu'aller dans le sens de l'anticipation.
Sur le BIM, un petit focus. En fait, le groupe Pichet, depuis 3 ans et demi, est passé dans le mode BIM, hein, parce mm-hmm. qu'on sent la transformation numérique aussi dans tous nos métiers. Mm-hmm. Et donc maintenant, le groupe Pichet est BIM compatible en conception. C'est-à-dire qu'on conçoit déjà nos bâtiments.
Donc c'est pour tout le groupe, là, ça y est, Exactement. Vous avez basculé voilà. en très peu de temps. Donc il y a une vraie conviction.
On était déjà prêt pour le village des athlètes. C'est-à-dire que le process BIM n'a pas été un process sur lequel nous, on a perdu du temps. Au contraire, mm-hmm. c'était une anticipation. Mais c'est vrai que le BIM, ça va avec le hors-site, parce que mm-hmm. du coup, le hors-site, on va en parler après, mais c'est construire avant de construire.
Hein, bien sûr, oui, c'est ça.
Et le BIM, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on construit numériquement un bâtiment qui sera ensuite réel. Mmh. Et donc on avait cette contrainte temps et cette contrainte espace. Nous, on est sur l'île Saint-Denis.
Ouais.
On est d'un côté la Seine, de l'autre côté de la Seine et de l'autre côté la 86. Pas de place.
Oui, il y a une vraie contrainte. Hein. Il y a une vraie contrainte d'espace hein, qui n'est pas simple.
Hein. Exactement. Mmh. On peut pas pousser les Seines, on peut pas pousser la 86. Donc dans tous les cas.
Alors on peut pas repousser la date, on peut pas pousser la Seine ni la 86. Il y a beaucoup de contraintes là-dedans.
Voilà. Donc dès le départ, on s'est dit comment on peut réfléchir intelligemment pour faire anticiper le maximum de choses. Mmh. D'où l'idée de faire du hors-site avec la construction bois. Alors le bois est une imposition aussi de Paris 24, mm-hmm. hein, on le dit très bien avec le bas carbone.
Ouais.
Et donc le bas carbone aujourd'hui, c'est pas que le bois, mais notamment. Mm-hmm. Et donc on a 12 bâtiments en bois qui vont être fabriqués en usine, un peu partout en France, parce mm-hmm. qu'on a déjà désigné nos partenaires bois. On va en construire tout à l'heure, on va en parler. Mais la résidence étudiante sera construite en Bretagne. Mm-hmm. Le reste du bâtiment sera construit dans le centre de la France. Mm-hmm. Donc, ça va être toute l'industrie bois qui travaille avec nous aujourd'hui mm-hmm. sur le village olympique. Mais donc, c'est du hors-site. On fabrique à l'usine. 80% de la fabrication est faite à l'usine. Et on vient juste sur le chantier pour poser nos bâtiments, quoi, construire nos bâtiments.
Alors, on va peut-être passer la parole à Eric Jeudisset qui en puisse dire un peu plus. Alors, sur c'est le PE2, c'est quoi? Ça sera un logement étudiant, hein,
alors,
c'est ça?
Tout le village des athlètes, en fait, est conçu pour accueillir des athlètes. Après, il y a c'est le sujet héritage.
Oui,
qu'on
bien
a
sûr.
Conçu nos bâtiments.
La transformabilité dont on parle, la réversibilité.
La réversibilité, exactement. C'est le terme sur lequel on a travaillé. En fait, nous, on a, dès le début, on a réfléchi les bâtiments en phase héritage et ensuite, on les a conçus en mode olympique. Mm-hmm. Et donc, ce bâtiment PE2 que Eric va expliquer, mm-hmm. ce sera une future résidence étudiante
ouais.
qui sera une résidence avec un preneur social. Mm-hmm. Et donc, on l'a conçu en résidence étudiante et transformé réversibilité en mode olympique.
Mm-hmm. Alors, Eric, je vous passe la parole pour justement en dire un peu plus sur ce que va représenter ce bâtiment en modulaire hors site.
Oui, donc la particularité de la résidence, en fait, c'est effectivement le fait que ce sont des chambres relativement répétitives puisque ce sont des chambres de résidence étudiante, plutôt des T1 et certains T2. Donc c'est un système en fait de logement qui s'apprête très bien à la réalisation hors site en modulaire. Mmh. C'est la particularité de ce projet par rapport aux autres projets que Ludovic citait. On est en préfabrication, mais modulaire 3D, si vous voulez. Donc des volumes un peu comme des conteneurs, mais des conteneurs en bois qui sont préfabriqués en usine où on fait pratiquement 100% des chambres en usine, c'est-à-dire qu'ils vont être finis en usine et pratiquement on pourra les plomber avant de les transporter pour avoir déjà fait les vérifications en fait de conformité en usine. Ils seront transportés donc par voie fluviale jusque sur le site.
Donc ça aussi, il y a un impact, on parle d'impact écologique, mais là aussi, on le limite aussi, parce que souvent, la construction, il y a le transport aussi derrière tout ça. Donc là, avec un transport fluvial, là on a l'avantage d'avoir la Seine à proximité. Je vous ai interrompu.
Voilà, Ludovic pourra rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a eu un gros travail de réflexion sur l'impact carbone lié au transport, puisque c'est la question peut-être qui vient à l'esprit quand on fait du hors-site, puisqu'il y a du transport, il y a du transport dans tous les... tous les modes constructifs, mais le transport est quand même une source aujourd'hui d'émissions de carbone, donc il faut le réduire au maximum. Et je pense que Ludovic pourra donner quelques précisions là-dessus. Mais pour revenir au bâtiment, donc on le monte ensuite un petit peu comme un Lego, hein, ce sont des grosses briques de Lego.
Donc on les pose les uns sur les autres, voilà, d'accord.
Voilà. Et ensuite on réalise bien sûr certaines choses sur site de manière un peu plus traditionnelle. Le socle, c'est-à-dire le rez-de-chaussée qui est une partie commerciale et collective, avec des espaces collectifs, est réalisé sur site, ce qui donne une assise stable, on va dire, pour l'ensemble du bâtiment. On pourrait le réaliser en modulaire aussi, mais on a pensé que c'était plus adapté de faire un système poteau-poutre. Et ensuite, on a donc ces empilements de modules avec des cages d'escalier qui, elles, sont réalisées sur site, aussi pour des contraintes feu, par exemple, et sont réalisables aussi en modulaire, mais on a choisi là de faire du sur site. Donc, c'est quelque part un système constructif un petit peu mixte, où on essaie d'utiliser les avantages de la préfabrication et aussi les avantages de la réalisation sur place. Et je pense que Pascal pourra rentre un petit peu plus en détail là-dessus sur la construction hybride en fait qu'il préconise.
Oui, ben peut-être Pascal Chazal peut réagir et je vous ferai commenter aussi derrière parce que vous avez accompagné aussi ces deux structures dans cette démarche-là, Pascal.
Oui, alors effectivement, donc on parle nous en l'occurrence là, sur ce projet de construction modulaire. Donc la construction modulaire, c'est une des techniques de la construction hors site. La construction hors site, c'est délocaliser la production du chantier dans un lieu plus confortable, plus abrité, où on va pouvoir donner de meilleures conditions aux ouvriers, de meilleurs outils, donc améliorer la productivité. Et bien sûr, on peut réaliser des ouvrages tels que par exemple des murs à ossature bois. On peut aussi réaliser des ouvrages tels que par exemple des salles de bain préfabriquées, peut-être des balcons préfabriqués, peut-être des gaines techniques préfabriquées avec des systèmes de tuyauterie et de réseau. Et la construction modulaire, donc volumétrique, donc c'est-à-dire un gros Lego qui va faire plusieurs tonnes, qui en l'occurrence ici est une chambre étudiante qui va être réalisée 100% en usine. Et donc, cette solution de construction hors site modulaire, c'est celle qui, bien sûr, va donner le plus de possibilités de transférer des heures du chantier à l'usine, ce qui va offrir le maximum de capacité d'amélioration de la qualité, de la productivité. Par contre, vous savez, quand il y a souvent... On échange sur l'industrialisation, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que industrialiser la construction ? Est-ce que c'est demain Airbus ou Peugeot qui va se mettre à construire des bâtiments ? Alors, en fait, nous, on ne croit pas du tout à ça. On pense que la construction hors site est une évolution du monde du bâtiment. On peut reprendre l'exemple d'il y a 30 ans, par exemple, les menuisiers fabriquaient leurs fenêtres. Et puis, il y a des industriels qui se sont mis sur le marché, qui aujourd'hui sont capables de produire des fenêtres de manière industrielle avec une efficacité, une qualité qu'un artisan n'arriverait pas à faire. Et donc aujourd'hui, le métier, par exemple, du menuisier s'est transformé. Eh bien, c'est sans doute ce qui va se produire avec la construction hors site. On va avoir des évolutions avec de plus en plus de travail dans des ateliers ou dans des usines parce que les conditions, bien sûr, sont meilleures. Et alors, ce que Eric a appelé la construction mixte ou la construction hybride, finalement, c'est ce qui va permettre de conjuguer le monde du bâtiment avec le monde de l'industrie. C'est-à-dire qu'on va fabriquer en usine ce qui a vraiment de l'intérêt à être fabriqué en usine. Par exemple, sur une résidence étudiante, eh bien, ce sont les chambres. Et puis, le reste du bâtiment, donc les infrastructures, les étages inférieurs qui peuvent avoir des grandes hauteurs, par exemple, eh bien, ça, on va réaliser sur le chantier. Et donc, avec des entreprises de bâtiment qui vont réaliser l'adaptation sur le terrain. On va venir, une fois que la maçonnerie est terminée, effectivement, poser nos modules les uns sur les autres pour constituer la structure du bâtiment. Et puis, on va réintervenir avec des entreprises de bâtiment pour donner finalement l'aspect extérieur et puis terminer également les finitions des locaux communs, des circulations, etc. Mmh. Ce système de modulaire hybride est extrêmement puissant puisque on va à la fois donner la possibilité d'industrialiser fortement un certain nombre d'éléments et puis conserver sur le chantier finalement les tâches les plus complexes qui vont être l'adaptation au site et l'aspect extérieur du bâtiment.
Alors on peut faire réagir Eric Judice et puis après je passerai la parole à Ludovic Cantier sur ce que vient de dire sur cette notion d'hybride qui permet j'imagine aussi puisqu'on parlait de transformer aussi de réversibilité de partir d'un bâtiment pour les athlètes pour en faire un logement étudiant aussi peut-être.
Oui, tout à fait. Il y a bien sûr l'aspect réversibilité, mais il y a aussi un aspect important sur lequel Pascal a insisté, sur le fait que les façades sont réalisées sur place et que finalement, l'aspect modulaire n'est qu'un aspect vraiment de construction et pas d'aspect. On est passé maintenant dans des techniques qui permettent finalement aux architectes de réaliser des bâtiments qui sont tout à fait esthétiques et intéressants en modulaire, alors qu'il y a quelques années, on voyait peut-être encore l'aspect modulaire dans l'expression du bâtiment. Mmh. Là, au final, de l'extérieur, vous verrez une façade continue avec 100 joints particuliers. Vous aurez une expression architecturale qui conforme à notre souhait, en fait. Donc, il n'y a pas d'impact forcément sur l'expression architecturale du fait du choix du modulaire, ce qui est très intéressant. Puisqu'on, ça nous permet d'optimiser en fait le système constructif, tout en gardant une liberté créatrice, une liberté dans l'expression et l'adaptation à différents contextes.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a un peu des deux. Oui, allez-y, oui, sur la réversibilité.
Oui, pardon.
C'est vrai que comme on ne se voit pas, c'est pas toujours facile. Tout près, en tout cas.
Sur la réversibilité, effectivement, c'est un aspect sur lequel on a beaucoup travaillé sur l'ensemble du village des athlètes. Ce bâtiment, la transition est assez minime finalement entre les deux utilisations puisque la résidence étudiante est très facilement adaptable à une résidence pour athlètes. Ce sont pratiquement les mêmes demandes. Par contre, nous réalisons un deuxième bâtiment qui est le PE5, donc on n'avait pas compté trop parler, mais quand vous parlez de réversibilité, là, c'est assez intéressant. C'est un bâtiment de bureau qui, lui, en l'occurrence, sera adapté en phase JO en tant que résidence résidence sportive, donc avec des salles de bain préfabriquées qui seront démontables et réutilisables dans d'autres opérations du groupe Pichet-Legendre. Idem pour les cloisons, sur lesquels Ludovic a fait tout un travail de développement de produits avec la société Saint-Gobain sur des cloisons démontables et réutilisables. Donc là, on est en plein dans la réversibilité d'un bâtiment de logement vers bureau ou le contraire, ce qui est une thématique assez importante en ce moment. Vous en parliez aussi ce matin sur la transformation des bâtiments. Donc là, on est dans de la préfabrication de modules de salle de bain. Donc, on est à une autre échelle. On ne fabrique pas l'ensemble du bâtiment en atelier, mais c'est quand même une partie importante de la possibilité de finalement pouvoir démonter ces éléments et les réutiliser donc dans un esprit d'économie circulaire finalement.
Alors, on va faire réagir Ludovic Cantier. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites.
Je vais essayer de faire tous les sujets.
Non, mais c'est l'intérêt.
Je vais essayer de revenir sur le premier sujet fluvial. Parce que le fluvial, exactement. C'est vrai que c'est un travail qu'on fait depuis 2 ans. C'est qu'on a réfléchi avec tous les acteurs de la filière qui est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être capable de construire les modules à Saint-Brieuc.
Oui.
Ça va partir de Saint-Brieuc en bateau, passer par la Manche et revenir sur les Saint-Nives via la Seine.
D'accord.
Donc, c'était un travail pendant presque un an et demi, parce que les acteurs entre la Seine et la mer, on se rend compte que c'est pas les mêmes. Mais on a eu la chance d'avoir un poids aussi de VNF et des acteurs politiques qui nous a aidés sur ce sujet. Donc c'est vrai que dans le bas carbone et leur site, ça aide, on va se dire les choses. Mais là, c'était bien d'avoir la Seine, pour une fois. et le sujet hors site, on vient d'en parler, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à avoir une image dessiné par OGA, puisque le concours, au départ, on était sur des volumes, des intentions. Et on a réussi à faire du hors-site tout en gardant l'aspect architectural. Ouais. Parce que souvent, comme dit Pascal ou Eric, on pourrait s'amuser à faire que des cubes et pas d'architecture. Au contraire, si on le prend en amont, c'est pour ça que c'est important. Le hors-site, c'est vraiment anticipation. On peut mettre la partie technique du container, si on l'appelle comme ça, du module, et faire de l'architecture à côté.
Oui, parce que quand on commence à parler de standardisation, justement, ça peut faire, entre guillemets, un peu peur en disant, voilà, standardisation, productivité, finalement, c'est des termes aussi qu'on peut aborder derrière tout ça. Mais non, on voulait dire, on peut tout à fait personnaliser, finalement, au bout du compte, parce que c'est un peu la question, et je pourrais faire réagir aussi les deux autres intervenants à ce point.
Bien sûr. Tout le benchmark, en fait, pour avoir fait cette résidence, on a fait un benchmark avec Pascal pendant presque 2 mois. On a rencontré tous les acteurs européens de la construction hors site, puisqu'il n'y a pas qu'en France. Hein. L'Espagne, l'Italie, la Suisse sont développés. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est dit, on ne veut pas faire que du cubique, du hors site cubique. On veut ramener de l'architecture. C'est possible, mais c'est vrai qu'on discute avec des industriels, comme le dit très bien Pascal. Lorsqu'on va discuter avec les personnes des usines, on discute avec des industriels, on ne discute pas avec des mondes du bâtiment. Et eux, en fait, ils le disent tous. On peut tout personnaliser. Ils prennent toujours l'exemple, Pascal le prend aussi, des voitures aujourd'hui. Vous pouvez tous avoir la même voiture personnalisée, mais en fait, le moule, au départ, c'est le même.
Ouais.
Et donc, on a réussi à travailler avec un industriel qui est en Bretagne, qui est Eloft, et qui on travaille aujourd'hui. Et on sait mettre le moule et tout personnaliser. Ils ont cette facilité, les industriels, de tout personnaliser. Et donc, le triptyque, il est important. Hein. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît bien. Mais ce qui est important, c'est que l'architecte soit pris aussi dans cette motivation de faire du hors-site.
Ouais.
Parce que là, les équipes d'Eric, ils ont été aussi moteurs sur ce sujet. Tous les chefs de projet, Natacha, Frédéric Colu, ils ont été moteurs sur ce sujet. Si l'architecte n'a pas envie de le faire, c'est compliqué. On va dire les choses parce que c'est vrai qu'on amène quelques contraintes. À un moment donné, le module, il faut qu'il passe sous les ponts, il faut qu'il passe sur les roues. Donc, on a expliqué aux équipes de GA, le module, il doit faire moins de 3 mètres.
Ouais.
Ça a amené une contrainte. Mais on avait une équipe d'architecture qui était à l'écoute.
Ouais.
Et donc, on avait l'équipe d'architecte, la maîtriseur, la maîtrise d'ouvrage qui sont sur la même longueur d'onde. On y arrive. Mais il faut que tout le monde soit en accord.
Alors, Eric, je dis, c'est peut-être réagir aussi à cette idée de trio gagnant entre MOA, vous, l'architecte, les entreprises aussi, les industriels qui se mettent à l'écoute.
Oui. Moi, j'ai grandi en Suède, donc j'ai beaucoup joué au Lego dans ma jeunesse. Donc, ça fait un peu partie de l'esprit de l'agence. Finalement, cette réflexion sur les structures, en fait, sur les systèmes constructifs devient de plus en plus importante. Et pour que les architectes aient un vrai impact sur la transformation, sur la transition vers une construction plus durable, on doit s'intéresser fondamentalement aux aspects constructifs de nos bâtiments et pas simplement, pas uniquement à l'aspect architectural ou, on va dire, l'expression esthétique des bâtiments. Donc, nous, on est très intéressés par ces aspects. On travaille sur les géos, mais aussi sur d'autres sujets directement, en fait, avec les entreprises industrielles pour réfléchir avec eux les systèmes constructifs. parce que c'est vraiment là où on peut optimiser le bilan carbone en amont, en fait, du. Et si on définit nous-mêmes, en fait, nos outils constructifs, on pourra aussi avoir un meilleur résultat final, puisqu'on ne va pas nous imposer, en fait, des choses. Donc, on est vraiment dans cet esprit de collaboration, aussi bien avec les industriels qu'avec le maître d'ouvrage et les consultants spécialisés dans ces domaines. Mmh. Et je voulais juste réagir par rapport au BIM, puisqu'on en a parlé en début d'émission. Je pense que le fait de travailler en BIM, nous on travaille tous nos projets en BIM depuis une dizaine d'années, puisqu'en Suède, ça a été imposé relativement tôt le full BIM, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs d'un projet doivent travailler en BIM, c'est-à-dire en maquette 3D, pour que en fait, tout le monde dispose des mêmes informations et puisse les partager. C'est fondamentalement un outil de collaboration. Mmh. Avant d'être un outil de conception, c'est un outil qui permet en fait à l'ensemble des acteurs d'avoir accès aux mêmes informations ou aux informations qui les intéressent et qui sont importantes pour eux. Donc le maître d'ouvrage, par exemple, les aspects économiques, l'ingénieur environnemental, les aspects liés aux déperditions thermiques, etc. Le constructeur, bien sûr, les aspects de géométrie ou des éléments architecturaux à prendre en compte dans la conception technique. Mmh. Donc cet aspect de BIM, et là, finalement, par rapport à ce que d'autres interlocuteurs ont dit plus tôt dans la journée, c'est vraiment un outil de collaboration, puisque on sent que les projets devenant plus complexes, les exigences plus fortes, finalement, en termes environnementaux, on pourrait y arriver qu'en faisant de la collaboration. Mmh. C'est là où on arrive à optimiser en fait les différents aspects du projet et atteindre un résultat commun qui correspond aux attentes de chacun.
J'imagine que Pascal Chazal ne peut aller que dans ce sens.
Oui, bien sûr, et d'autant plus que l'aspect collaboratif que l'on retrouve sur le BIM et qui est nécessaire pour le BIM, et bien sûr, c'est un outil qui favorise la collaboration et pour laquelle la collaboration est absolument nécessaire, on va retrouver exactement la même logique sur la construction hors site. Mmh. Sur la construction hors site, il va falloir travailler d'une manière différente de celle que l'on connaît quand on fait de la construction classique et traditionnelle. Et c'est vraiment un travail de collaboration et qui a formidablement bien marché d'ailleurs sur le bâtiment PE2 avec Ludovic, avec Eric et puis avec tous les acteurs qui étaient autour de la table. Donc je dirais le BIM et la construction hors site, c'est le duo gagnant parce que finalement ça procède de la même organisation. Moi je voulais peut-être revenir sur la standardisation.
Oui, j'allais vous poser la question. Bah oui, parce qu'on a envie de dire mais chaque bâtiment il est différent. Oui. Et comment vous pouvez faire, vous êtes bien gentil en arrivant avec vos Lego. Ouais. Quoique des Lego, je me souviens de ma jeunesse, moi aussi j'y ai joué, on pouvait faire des tas de choses formidables et diverses et variées.
Tout à fait. Et alors le mot standardisation, c'est très intéressant parce que c'est un mot qu'on n'aime pas du tout dans le monde de la construction. Mm-hmm. Moi, mon opinion, elle n'est que personnelle, je pense que c'est un peu peut-être par réaction aux années d'après-guerre où on l'a peut-être trop utilisé. Et on a effectivement reconstruit la France pendant 30 ans en utilisant beaucoup, beaucoup la standardisation. Mmh. Et quelque part, dans les années 80, il y a eu un mouvement qui nous a dit « Mais arrêtez de nous faire les mêmes bâtiments partout. Hein. Vous faites les mêmes barres d'immeubles à Marseille ou à Strasbourg. Ça n'a pas de sens. Et donc, il faut apprendre à nous construire des bâtiments en s'intégrant dans son environnement. » Et quelque part, ça fait 40 ans qu'on met, on a un Dieu le Père qui est le sur-mesure, hein, on doit s'adapter vraiment à chaque fois. Et quelque part, on a pris l'habitude de partir d'une feuille blanche pour construire un bâtiment. Et en fait, cette méthode, finalement, consiste à nous amener à faire un bâtiment prototype à chaque fois. Et quelque part, à ne pas réussir à capitaliser. Et on va tout réinventer tout le temps. Et on sait aujourd'hui que ça a un coût très important, les coûts de non-qualité. On sait qu'on n'arrive plus à livrer aujourd'hui des bâtiments sans réserve. On sait qu'on a des dépassements de budget. On sait qu'on a des retards, etc., etc. Et donc, quelque part, on est en train de se reposer la question de comment faire autrement. Et effectivement, l'industrialisation s'appuie sur la standardisation. Mais ce n'est pas un gros mot. Alors souvent, on parle de l'automobile, effectivement, Ludovic l'a cité tout à l'heure. Et moi, j'ai essayé de chercher peut-être d'autres exemples que l'automobile. Et j'en ai trouvé un très intéressant. C'est dommage parce que je ne peux pas le présenter, mais j'ai présenté il y a quelque temps un petit film qui est en fait un film où on voit deux dessins animés de Walt Disney qui fonctionnent en même temps. Sont des dessins animés différents, avec des époques différentes, mais on voit que, par exemple, les personnages ont les mêmes postures, ont les mêmes gestes, ont les mêmes scènes, et quelque part, Walt Disney a standardisé la manière de produire ses dessins animés. Et c'est ce qui lui a permis de produire des dessins animés rapidement, en réduisant les coûts, etc., etc. Et la standardisation, quelque part, c'est d'abord la standardisation des processus, et puis c'est la standardisation également d'un certain nombre de composants. Et quand on apprend à jouer avec ça, on est capable de réaliser des bâtiments, et c'est le cas aujourd'hui, qui sont absolument incroyables de qualité d'architecture. Je peux citer, par exemple, aux Pays-Bas, un hôtel qui a reçu des grands prix d'architecture qui s'appelle l'hôtel Jakarta, qui utilise la standardisation sur un certain nombre d'éléments, notamment sur les chambres, et puis qui utilisent des techniques plus traditionnelles pour d'autres éléments. Donc, c'est vraiment une question de langage et de vocabulaire. J'aurais tendance à le résumer de la manière suivante. Aujourd'hui, la manière de concevoir des bâtiments suit un processus qui n'intègre pas du tout de données de préfabrication et de standardisation. Et c'est ça qu'il faut changer, en fait. C'est le travail qu'on a fait avec Eric, avec Ludovic, et ça pourrait être intéressant qu'ils donnent un petit peu leur point de vue là-dessus, mais nous, on a essayé de les guider dans cette vision-là, et le résultat, me semble-t-il, est tout à fait probant, et la qualité architecturale du bâtiment PE2 est vraiment très intéressante, et on a réussi à rentrer dans des coûts qui permettent la construction modulaire.
Ah bah voilà, vous avez évoqué deux sujets, parce que c'est formidable sur le papier, c'est magnifique, on a évidemment un très très beau projet, mais il y a quand même deux questions. Alors vous pouvez évidemment réagir, Ludovic Cantier, à ce que vous avez entendu, mais moi il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Oui, alors on peut construire avant de construire, mais on a bien vu qu'après il y avait une partie un petit peu qui était sur place, mais quand même, ça laisse pas quand même beaucoup de place, j'imagine, à l'improvisation. C'est peut-être pas si simple que ça à faire. Et alors, la question du coût, elle revient tout le temps. Je pense que Pascal Chazal bouclera la boucle sur la question du coût, mais on va vous l'amener. Enfin, il y a aussi la difficulté de la construction bois. Enfin, il y a tout ça derrière. Ça, dans les 10 minutes qui nous restent, je pense qu'on peut aborder un petit peu les questions un peu plus qui fâchent.
Sur le premier sujet, juste finir standardisation.
Oui, allez-y,
Standardisation. Oui, allez-y. C'est vrai qu'on a fait le tour d'Europe avec Pascal à l'été dernier pour voir tous les acteurs. On est quand même un tout petit peu en retard par rapport à ce qu'il vient de dire à la Hollande, à l'Italie, à l'Espagne, sur lequel ils ont bien embrayé quand même le sujet de la standardisation. Et comme vous l'avez fait en introduction, le Covid a aussi poussé les acteurs français à se standardiser. Mais on peut standardiser en faisant de l'architecture. C'est un peu ce qu'on veut dire aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas en train de dire si on peut faire un truc standard, mais qui peut être beau. Et d'ailleurs, Eric l'a très bien dit. Il faut juste qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. Donc ça, voilà, c'est juste pour... le coût, on en parle souvent. C'est vrai que c'est un sujet qui fâche. Pascal le sait, c'est un choix de faire du hors-site. Parce que c'est un choix souvent où on a plusieurs contraintes qui fait qu'on a du hors-site.
Qu'on peut peut-être pas faire partout, alors, ça veut dire...
Très sincèrement, on va pas le faire partout. Parce que le hors-site aujourd'hui, si on prend les bâtiments hors-site du village olympique, c'est entre 6 à 8% plus cher que si j'aurais fait du traditionnel chantier. Par contre, c'est du coût de construction. Par contre, comme vous dites très bien, avec le hors-site, on gagne sur la qualité. C'est-à-dire qu'on on va avoir des bâtiments qui vont sortir d'usine finis, sur lesquels on va faire nos OPR en usine, donc pas sur un chantier où il pleut, où vous avez de la boue, voilà. Les chambres vont arriver finies. Et donc le coût de la non-qualité, on ne le matérialise jamais trop, mais c'est important dans un bilan économique. Et en plus, on a une contrainte de temps. Donc avec des pénalités qui sont assez conséquentes si on n'arrive pas à tenir le délai. Et donc, si vous rajoutez les pénalités de retard, si vous rajoutez les pénalités de non-qualité, on sait faire l'équilibre, entre guillemets, sur leur site. Mais c'est vraiment si vous avez des contraintes. Si vous construisez un bâtiment dans un village, je ne vais pas dire une bêtise, dans un village, vous n'avez aucune contrainte de temps, de site, il n'y a aucun intérêt à faire du hors-site que si on est passionné comme Pascal ou moi, je peux, il a réussi à me donner la passion. Mais sinon, Il faut le faire que si on a des contraintes, sincèrement. Après, nous, on réfléchit également juste sur l'avenir. Le groupe Piché, on a utilisé un peu le village des athlètes comme un laboratoire, parce que c'est, on réalise des choses.
Ça sera une belle vitrine aussi pour vous.
Exactement. On a conçu des choses qui n'ont jamais été conçues, on va se dire les choses. On a une équipe qui aussi a réfléchi tout le temps et beaucoup d'espoir, parce que tout ce qu'on fait, on ne l'a jamais conçu. D'ailleurs, c'était la volonté de Paris 24, c'est de concevoir des bâtiments qui n'avaient jamais existé. Et donc, on a poussé ce sujet du hors-site, parce qu'en fait, le groupe Piché est aussi une foncière. Donc, on réalise nos hôtels et nos résidences pour nous. Et donc, toutes nos résidences, on les fera hors site plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de gagner du temps en délai de chantier également. On va le construire, ce bâtiment PE2, on va le construire en 6 mois. Ah oui. Alors, 6 mois sur chantier. Par contre, on est déjà en train de lancer les fabrications en usine.
Bien sûr, oui.
Donc, c'est à peu près 12 mois avant. Mais vous faites 12 plus 6, c'est 18 mois pour une résidence de 140 chambres. Si vous le construisez en traditionnel sur chantier en béton, on va le construire en 24, 26 mois. Donc, vous faites 10 mois en moins. Quoi, voyez. Donc, c'est sur un business model, on va dire, complet, sur lequel vous faites la conception, mais aussi la réalisation et l'exploitation. Le hors-site amène une plus-value.
Oui, finalement, on s'en sort économiquement dans l'histoire.
Exactement, vous livrez avant, donc vous pouvez mettre en exploitation avant. Et surtout, on a un gage de qualité. Et ça, c'est des sujets aujourd'hui dans le bâtiment sur lequel on est en train de travailler, parce qu'on est toujours pris, comme dit Pascal, à la fin de la livraison et des réserves. Et ça, c'est du temps. Ça vous prend du temps et de l'argent.
Bien sûr. Alors, Eric Jeudissé, vous voulez réagir à tout ce qui vient d'être dit aussi sur ces questions?
Oui, je pense qu'il y a aussi l'aspect par rapport au fait de vouloir réaliser des 200 000 logements sur des sites qui sont finalement souvent assez contraints, où il peut y avoir aussi une opposition, on va dire, qui est liée un petit peu au fait qu'un chantier, ça peut être bruyant, ça peut être dérangeant. Je pense que quand le hors-site va se développer, aussi dans l'opinion, peut-être qu'un chantier ne sera pas exactement vu de la même manière, puisque c'est des chantiers qui sont beaucoup plus silencieux, qui sont plus courts.
Il y aura moins
courts.
De trafic, justement, moins peut-être de passages de camions aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, on ne coulera pas du béton sur place, on n'aura pas des bétonneuses qui vont tourner. Donc, l'opinion publique, je pense aussi, pourra être peut-être plus enclin à accepter la réalisation de bâtiments, puisqu'on a bien compris qu'on ne pourra plus construire dans des champs. Il faut garder des terrains agricoles pour ce qu'ils sont.
Vous parlez d'artificialisation des sols.
Construire la ville. Voilà, c'est ça. Donc, c'est construire la ville sur la ville. Et donc, je pense que Ludovic, quand il dit des sites sans contraintes, il y en aura très peu, finalement, dans les années à venir. Ce qui motivera de plus en plus vers une construction qui est plus agile finalement par rapport à l'environnement dans lequel il s'insère.
Alors je vais laisser le mot de la fin à Pascal Chazal, où il y a beaucoup de choses à résumer, j'allais dire.
Oui, il y a beaucoup de choses et on sent bien aujourd'hui qu'on est dans un moment de bascule, que finalement la construction telle qu'elle est, qu'elle est vue en France et qu'elle est utilisée en France depuis de très nombreuses années. Quelque part, c'est un petit peu le résultat des années d'après-guerre où les entreprises se sont mises en place pour construire avec le béton. Et tout le système aujourd'hui est fait pour on va dire, autour du béton coulé sur le chantier. Les réglementations, les organisations, les financements, la formation des gens, tout est organisé comme ça. Mais on voit bien qu'on est en train d'arriver au bout du système, d'abord parce qu'il y a les enjeux environnementaux. On sait que le béton porte une très lourde part de responsabilité sur le CO2. C'est pas pour rien si des grands groupes comme le groupe Bouygues, par exemple, annoncent qu'ils veulent faire 30% de leurs bâtiments en bois, par exemple. On a aussi la vision de, quand on parle de coûts en général, on s'intéresse aux coûts travaux. C'est le coût de la case du tableau Excel dans lequel je dois rentrer pour que mon opération immobilière elle puisse sortir. Mais est-ce que vous savez, Nathalie, que le coût de construction d'un bâtiment ne représente que 20% du coût global de l'utilisation de bâtiments sur 30 ans.
On en parlait tout à l'heure, notamment avec Emmanuel Cosse. Il n'y a pas que ça, évidemment.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle le coût global. Ouais. Et quand on intègre le coût global, c'est-à-dire le coût de construction, plus le coût gagné pendant la rapidité de construction, plus le pas de réserve à la fin du chantier, plus l'amélioration de la qualité de la construction qui va réduire les coûts d'entretien, de maintenance et de SAV, c'est-à-dire sur une vision coût global, même en ayant une construction plus chère aujourd'hui, au moment de la construction, on va faire la démonstration qu'en termes de coût global, au final, le bâtiment va coûter moins cher. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. C'est vrai que c'est fortement accéléré par la crise sanitaire, mais vous savez que le bâtiment repose sur une main-d'œuvre qualifiée. Or, la main-d'œuvre qualifiée, elle manque en France, donc ça veut dire qu'on va la chercher à l'étranger. Hein, on utilise beaucoup de la main-d'œuvre détachée. Avec les conditions sanitaires, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre détachée. Donc, ça veut dire qu'on a un manque de main-d'œuvre. Et on voit aujourd'hui un phénomène d'accélération de l'augmentation des coûts travaux en construction traditionnelle, alors que par ailleurs, finalement, les industriels de la construction hors-site sont en train de progresser. Et quelque part, on n'est pas loin d'arriver à avoir des courbes qui se croisent, c'est-à-dire une construction traditionnelle avec des coûts qui s'accélèrent, qui grimpent, et puis une construction hors-site qui, elle, va commencer par l'amélioration continue à avoir une courbe qui baisse. Et donc, je pense qu'on n'est pas loin de la croisée des chemins où la construction hors-site va devenir compétitive par rapport à la construction classique.
Voilà, ben BIM et hors-site duo gagnant, je pense que vous l'avez bien prouvé à travers cet exemple. Merci à vous Pascal Chazal, CEO de Patch Conseil, hein, donc qui a accompagné notamment Pichet sur tout ce projet, à Éric Judicier, architecte fondateur du cabinet EGA, et à Ludovic Cantier, directeur général adjoint études de Pichet, donc pour cette illustration, un projet du village des athlètes des JO 2024 de l'Île-Saint-Denis, donc terrain acheté il y a deux jours, et là ça là,
on ça va démarre dans
vous avez commencé à construire, à fabriquer.
À fabriquer. Alors, la fabrication est déjà même partie depuis 3 mois. Donc
Donc on suivra ça de près. Merci beaucoup. On va marquer une dernière pause et se retrouver avec la dernière séquence de ces rendez-vous du Mondial du bâtiment. C'est important aussi de parler de tendances, de design, de voir ce qui se passe aussi du côté des architectes d'intérieur. On va parler de réemploi après une courte pause.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.